Chapitre 51. Comme de la poudre d'or. Le premier trimestre est passé à la vitesse d'un TGV. Je me lassais quand j'étais petite d'entendre mes parents se lamenter du temps qui passait trop vite. Moi, je ne trouvais pas, au contraire, souvent je m'ennuyais. Et aujourd'hui, je suis la première à râler que la journée soit déjà finie. À me demander si le temps ne s'est pas mis à accélérer au fur et à mesure que je vieillissais. Mais non. Tout est question de perception. Ce soir, nous fêtons le réveillon de Noël à la maison. Eric n'a pas voulu rentrer chez ses parents. Il a prétexté qu'il ne voulait pas trop bouger après toutes ces années d'errance. Mais je crois, du moins j'espère, que c'est pour passer Noël avec nous. Anna Nina avait proposé à Sébastien de rester quelques jours, mais sa maman voulait qu'ils passent Noël tous ensemble. Normal. D'autant qu'ils sont partis dans la famille de son beau-père, quelques jours en Bourgogne. Mes parents passeront demain, à midi, et le soir, chacun de leur côté. Quant à Gaël, comme tous les ans, il ira voir les siens le 25 pour un repas festif. Cette année, sa mère a l'interdiction de faire 3 entrées, 2 plats et 4 desserts. Y arrivera-t-elle? Gaël, en tous les cas, saura résister. Il a franchi un cap depuis environ 2 semaines. Ses pulsions ont disparu. Il n'est plus attiré par le sucré. Il a diminué ses portions sans s'angoisser, et le sport commence à vraiment faire effet. Il m'a avoué que Socket l'aide beaucoup. C'est une machine de paix. En dehors de quelques moments où elle est surexcitée, elle passe sa vie à se pelotonner contre lui et à ronronner, posée sur son plexus solaire, pile à l'endroit du nœud d'émotion à dissiper. Massage par les ondes félines. Ils sont devenus inséparables. Dès qu'il franchit la porte, elle se faufile entre ses jambes jusqu'à ce qu'il la prenne pour la câliner. Enfin, une dernière invitée, et non des moindres, sera présente ce soir de Noël. La neige. Elle a commencé à tomber hier matin sans discontinuer. Comme le sol était froid, elle a pu s'accrocher. Anna Nina a mesuré à midi en plantant un double décimètre dedans, il y a 12 centimètres. De quoi passer un Noël comme dans les contes. Gaël est venu m'aider ce matin. Il s'en veut un peu de s'être ajouté à la tablée depuis un trimestre, m'obligeant à cuisiner pour 5. Ça ne me pèse pas. Il faut dire que je puise beaucoup dans les réserves de bocaux. Je fais des plats simples, la diététique est pratique pour ça. Pas de sauce, ni trop de viande à cuire. Mais ce soir, c'est jour de fête. Nous ferons une dinde, que nous sommes allés chercher chez Odette, et nous l'accompagnerons de légumes et de touch. Nous irons faire de la luge demain pour brûler tout ça. Gaël doit aussi réapprendre à se faire plaisir avec la nourriture et à ne pas la voir comme une ennemie. Anna Nina a passé une partie de la journée dans sa chambre, sortant seulement pour aller chercher un flot, du papier d'emballage, du scotch et quelques étiquettes. Nous n'avons pas prévu de grandes choses, juste passer du temps ensemble et nous bricoler des surprises, de celles qui viennent du cœur. La nuit est déjà tombée. Il est à peine 17h. Je termine quelques préparatifs culinaires pendant qu'Anna Nina et son père préparent une jolie table. Depuis ma lettre et le tour dans la glaise, je nous sens plus complices. Il reste solitaire, indépendant, discret, mais il me manifeste plus d'affection et de tendresse, comme s'il avait moins peur de s'engager. Ils ont fabriqué des petits bougeoirs en terre un jour dans l'atelier, recouverts d'émail rouge, vert, bleu roi, et doré. Les bougies chauffe-plat sont insérées, prêtes à être allumées quand nous serons à table. Gaël doit venir tôt, avec de bonnes chaussures. La consigne émane de nos cachotiers qui ont des choses à nous révéler. Gustave a déjà posé ses cadeaux au pied du sapin et s'est installé dans le vieux rocking chair de Suzanne, dans le coin du salon. Il se balance en nous regardant faire, le visage épanoui d'un sourire. Gaël frappe à la porte et entre après avoir pris soin de cogner ses chaussures pleines de neige contre les marches de l'escalier. Il s'en défait et ôte sa veste qu'il accroche au porte-manteau de l'entrée. Puis il se tourne vers nous. C'est Eric qui pouffe en premier. « Tu as traversé un ventilateur ?» lui demande-t-il. « Ha 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 ! Rappelez-moi qui m'a offert un chat il y a 2 mois. » « Mais pourquoi elle t'a fait ça ?» Elle a joué avec du scotch dans un carton que je déballais du déménagement. À force, des morceaux sont restés collés sous ses coussinets. J'ai dû la maintenir pour les couper. Elle n'a pas aimé. Elle s'est débattue. Gustave se lève et nous enjoint de nous préparer pour un petit tour dans la neige. « Vous auriez pu me le dire avant, je viens de me déshabiller !» peste Gaël. Quelques instants plus tard, nous sommes tous emmitouflés, équipés d'une frontale ou d'une lampe torche, pour avancer dans la nuit. Le chemin est glissant, d'avoir été tassé par quelques voitures de passage. Il n'y a pas un bruit autour de nous. Tout est étouffé par la neige. Seul le craquement de nos pas vient rompre le silence. Car nous osons à peine parler. Ananina et Gustave ouvrent la marche en se tenant la main. Ils sont tout excités, probablement fiers de ce qu'ils vont nous montrer. Nous nous engageons sur le chemin plat, mais au bout de 30 mètres environ, la petite nous annonce qu'il va falloir descendre dans le pré. La neige a recouvert toutes les bosses, tous les creux, et nous progressons lentement pour ne pas trébucher. Je commence à comprendre que le grand arbre sera notre destination. Les planches, les poulies, tout ce matériel qu'ils ont trimballé, je sais où il est désormais. Quand nous arrivons au pied du tilleul, Ananina lève les bras vers le sommet avec un « Tadam !» enthousiaste. Eric dispose d'une lumière plus puissante que les nôtres. Il la braque vers le haut et nous voyons apparaître quelques planchers entre les branches, à différentes hauteurs. On n'a pas encore fini, mais maintenant il faut qu'on attende le printemps. Elle monte jusque tout en haut. Sur le dernier palier, nous avons prévu des murs et un toit. Une vraie cabane, quoi! Le travail est colossal et le résultat incroyable. Gustave affiche un sourire satisfait. Un vieux rêve de gamin, sûrement. Ananina voudrait y grimper, mais avec la neige, la démarche n'est pas prudente. On reviendra de jour, lui promet son père. Quand il fera meilleur, et tu nous montreras, d'accord? La fillette acquiesce, et je propose, transie de froid, de rentrer bien au chaud pour fêter ce secret levé. Nous buvons un vin chaud en guise d'apéritif, le temps de déballer les cadeaux. Ananina a tenu à commencer. Elle a fabriqué des objets de bois, de terre, de papier, un petit crochet pour la cuisine de la roulotte, un cadre pour mon salon. Elle a décoré une vieille caisse en bois que son père a trouvée en rangeant la cave pour les pelotes de laine de Gustave. Pour Gaël, elle a fait un joli cahier avec du papier recyclé et des découpages. Tu pourras y écrire tous les progrès que tu fais et toutes les choses positives. J'ai mis tous les kilos que tu as perdus sur la première page. Elle a même fabriqué un jouet pour Socket au bout d'un élastique. Gustave a fait une couverture pour Eric en patchwork de tricot. Ça ira bien dans la roulotte. Il m'a fabriqué une étagère supplémentaire pour mettre mes pièces de poterie à sécher. Pour la petite, il a construit une maison de poupée. Elle est ébahie. Il a même installé l'électricité et des loupiottes pour éclairer chaque pièce. Enfin, pour Gaël, il a tricoté une écharpe. À Solbach, la vie est rude. Il te faudra bien ça. Ce dernier a prévu des livres pour chacun. Il offre toujours ça. De permaculture pour Gustave, de rock pour Eric, d'astronomie pour Ananina, et pour moi, un livre de méditation. Eric m'a offert un émail rare, une couleur magnifique, avec des reflets dorés, et un livre sur le kintsugi. En japonais, certes, mais suffisamment illustré pour en comprendre le principe. Il m'a mis un petit mot en dédicace. Cet art japonais de réparation des céramiques brisées à partir de poudre d'or pour leur donner une seconde vie m'est apparu hautement symbolique te concernant. D'abord parce que tu fais de la céramique, ensuite parce que tu as été cette poudre d'or quand je suis arrivée en juin, fendue de partout. Tu as su me réparer. Merci pour ça, pour tout. Évidemment, j'ai pleuré. Gaël a reçu de sa part une tenue de sport à sa nouvelle taille, petit clin d'œil au programme qu'il lui a concocté maintenant qu'il s'est habitué à bouger. Pour sa fille, un appareil photo dont elle rêvait depuis longtemps. Il a considéré qu'elle était prête désormais. Et enfin, pour Gustave, un outil de jardin flambant neuf pour aérer la terre sans se briser le dos. Pour ma part, j'ai fait quelques poteries pour le quotidien. Un bol, une tasse, une assiette, et pour Ananina, un petit récipient à couvercle pour y ranger ses trésors. Nous nous embrassons. C'est doux, c'est simple, le village est calme sous la neige, seulement quelques lumières oranges autour des lampadaires. Nous sommes au chaud devant le poêle à bois. La vie est belle. Bon, commence Gustave. Avec la petite, on a un autre secret. Je ne sais pas trop comment vous le dire, c'est un peu délicat.
Il suffit de dire que j'ai vu maman,
s'exclame-t-elle en le regardant. Gustave nous observe, penaud, guettant notre réaction. Comment ça, tu as vu maman ? S'étonne son père.
Eric, je crois que ta fille est dotée de capacités un peu paranormales, comme on dit. Elle a vu plusieurs fois sa maman debout, au bout de son lit.
Elle a sûrement rêvé.
Non, papa, j'ai pas rêvé. Je me suis même pincée. Demande à Gustave, je lui ai montré la marque sur ma peau la première fois.
Tu es sûr, Gustave ? C'est un problème sérieux, dis-je, inquiète.
Ce n'est pas un problème.
C'est un don. Il faut que je vous dise.
Je sais ce que c'est.
Moi aussi, j'ai cette capacité. Je ne l'ai jamais utilisée. J'ai eu peur au début. Mais je regrette aujourd'hui. J'aurais pu aider les gens.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Gustave ?
Intervient Gaëlle. Ça n'existe pas, ces choses-là.
Je pense qu'il faut croire ce qu'elle dit et se renseigner.
Je sais que c'est un sujet tabou, ça fait peur, la mort, mais laissez-lui une chance d'être qui elle est. Je sais ce qu'elle vit.
Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?
C'est depuis longtemps ?
Depuis que je suis petit, vers 10 ans.
Suzanne savait ?
Surtout pas.
Pourquoi ?
Elle m'aurait demandé pour Léon.
Tu savais quelque chose pour lui ?
Oui.
Qu'il était mort ?
J'ai les larmes aux yeux d'évoquer ce pan douloureux de l'histoire de ma grand-mère. Un ange passe. Ananina a pris son pouce et triture le bas de son pull.
Eric la regarde avec douceur.
Mais je le sens soucieux.
Gaëlle et moi observons Gustave réfléchir à sa réponse, les yeux fermés.
Je ne pouvais pas le lui dire. Elle ne m'aurait pas cru. Ou alors elle aurait imaginé que j'inventais tout ça pour qu'elle l'oublie pour moi. Mais c'est de l'histoire ancienne. Par contre, la petite, c'est là, maintenant.
Mais on peut empêcher ça ? Demande Eric.
On peut canaliser si c'est trop important. Pour l'instant, elle n'a vu que sa maman. Le phénomène va peut-être s'arrêter là.
Ou pas.
Nous voulions vous le dire. Parce qu'elle ne veut pas garder le secret.
Je fais pas exprès, papa, tu sais ?
Je sais, ma puce. C'est juste que ce n'est pas habituel, alors il faut nous laisser le temps de comprendre, d'accord ? Tu m'en parles quand ça arrive, tu veux bien ?
Elle était jolie, maman.
Oui, ma chérie. Elle était jolie, ta maman.
Nous poursuivons le repas en parlant d'autre chose. Je regarde Ananina de temps en temps, du coin de l'œil. Elle est joyeuse, spontanée et parfois plus lointaine. Sa sensibilité exacerbée lui offre des moments exceptionnels. Elle vit chaque instant à 200%, mais je ne peux m'empêcher d'imaginer les peines, comme elles doivent être vives, ou comme elles le seront quand elles se présenteront, puisqu'il y en aura forcément. Ce que nous a annoncé Gustave est compliqué. La mort fait peur. Je ne sais pas quoi croire. Et pour Eric, cela doit être encore plus difficile. Il s'agit de sa femme. Et il s'agit aussi de sa fille. Elle n'a rien inventé. Il ne peut pas nier ce qu'elle raconte, balayer ça d'un revers de main sous prétexte qu'il n'y croit pas.
Personne ne sait. Ce ne sont que des suppositions. Mais je me souviens que Suzanne en avait parlé à maman il y a longtemps. Elle voulait savoir. Elle ne supportait plus de n'avoir aucune nouvelle de son mari. C'était des années après la fin de la guerre. C'est qu'elle pensait que cela existait. Je n'ai jamais su si elle s'était finalement rendue chez ce médium dont elle avait entendu parler, à Strasbourg. En tout cas, la petite ne semble pas perturbée par ses apparitions, et c'est le principal. Gustave l'est presque plus. Forcément, s'il en est capable aussi, il sait ce qu'elle peut vivre.
Nous changeons complètement de sujet juste avant le dessert. Cette fois, c'est Eric et Gaëlle qui nous convient à leur surprise. Nous longeons la maison sans même nous habiller, jusqu'à la cave aménagée.
Elle est un peu chauffée à cause des instruments. Il nous tend des bouchons d'oreilles et s'installe. Eric a ajusté son micro, il fait signe à Gaël, qui lance son intro de batterie, et le morceau démarre. The Pretenders, Middle of the Road. C'est la première fois que j'entends Eric jouer de la guitare et chanter. Il a les yeux fermés, concentré, à fond dans ce qu'il fait. Moi, j'ai 14 ans, et le frisson de la gamine qui admire. Gaël nous regarde en cognant sur cet homme. Il est heureux. Le dessert est savoureux, parce que le moment l'est. Nous faisons ensuite quelques jeux, avant de nous coucher. Demain sera ensoleillé, les luges sont aiguisées. Je me demande si le père de Sébastien est seul en ce soir de Noël.